RCF.
Bonjour, auditeurs, auditrices de l'émission Le Berry se raconte avec Agora Défense pour l'histoire militaire du Berry et du département du Cher. Nous nous étions déjà intéressés dans de précédentes émissions à l'industrie d'armement dans notre Berry, plus particulièrement à Bourges. Mais c'est oublier la métallurgie en dehors de Bourges, industrie très ancienne avec de l'armement. Une association a su redécouvrir et surtout nous faire partager ce patrimoine industriel au plus grand nombre. C'est l'association Au Bois de Terre et de Feu, avec une attention plus particulière à Torteron, village de notre Berry, à l'est de notre département. Pour nous en parler, une des membres fondatrices de cette association Au Bois de Terre et de Feu, Madame Annie Laurent. Bonjour, chère madame.
Bonjour, monsieur.
Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes professeur honoraire de sciences physiques au lycée Pierre-Émile Martin. Notre première émission sera consacrée justement à cette métallurgie à Torteron du XIIe siècle, à l'époque moderne, sachant que cette métallurgie est aussi beaucoup plus ancienne. Ma première question, pourquoi trouve-t-on une industrie de la métallurgie à Torteron et dans le pays de l'Aubois dès le XIIe siècle ?
Eh bien, je dirais que c'est l'abondance des ressources locales et la présence d'investisseurs audacieux qui ont favorisé une tradition métallurgique le long des vallées du Cher et aussi de l'Inde, de la Nièvre voisine. La métallurgie est un art du feu. Elle donne donc un débouché lucratif aux possesseurs de forêts, en particulier sur la commune de Mentoucouture, voisine de Torteron. L'abbaye de Fontmorigny a un riche patrimoine foncier comprenant de vastes forêts. De ces forêts, on tire le charbon de bois, combustible métallurgique renouvelable de plus haut rendement que le bois. N'oublions pas non plus le bois de charpente pour les ateliers et autres constructions.
Justement, où trouve-t-on aussi du minerai de fer en Berry ?
Pas de fer sans minerai. De nombreux gisements sont répartis en Berry, en Nivernais et d'exploitation facile.
Pouvez-vous nous rappeler brièvement la façon de transformer le minerai de fer, la définition de bas fourneau et de haut fourneau, sachant que nous rentrerons beaucoup plus dans le détail pour le haut fourneau dans notre seconde émission.
Eh bien, le minerai que l'on trouve est un oxyde de fer, c'est-à-dire recomposé du fer et d'oxygène. En le mettant en présence de carbone du charbon de bois, on isole le fer que l'on retrouve sous forme d'un massiot de loupe. Bien sûr, il faut une très haute température pour faire cette opération. Le fer fond à 1500 degrés, c'est hors de question de l'obtenir liquide. On va donc mettre un peu de minerai, oui, un peu de charbon de bois, on va souffler pour apporter de l'oxygène, et on va retirer une poignée de fer dont on fera des outils divers. Le four a peu à peu sa capacité, oui, on va lui créer une cheminée, il va s'élever doucement et on va au cours des siècles obtenir un bas fourneau. Peu à peu, ce fourneau, on va le maçonner. Et au XVIe siècle, il atteint la taille d'un homme, la dépasse peut-être légèrement puisque des images représentent une échelle pour atteindre le gueulard où se déversent les charges, c'est-à-dire le charbon de bois et le minerai en couches alternées. Là, en bas du fourneau, la loupe est retirée et au-dessus, on élimine évidemment une crasse qu'on appelle le laitier qui, en se solidifiant, est reconnaissable et nous permet d'identifier ces fours anciens. C'est le procédé direct. On passe directement, oui, du minerai au fer.
Les forges de Torteron profitent-elles des commandes militaires au XVe siècle ? J'ai lu dans l'excellent livre de Jeanne Joland que l'on fabriquait aussi des bombardes.
Justement, le procédé direct va être détrôné peu à peu par l'importation du haut fourneau, qui a été une création du Saint-Empire romain germanique. C'est pour cela qu'on voit apparaître des Allemands qui arrivent dans nos forges et qui vont créer ce haut fourneau tout à la fin du XIVe siècle, à partir de 1380. Et le mécanisme du soufflet s'étant perfectionné, la température atteinte est plus élevée, la taille augmente encore, et ce qui fait que le fer, pâteux jusqu'alors, va peu à peu couler en se chargeant de carbone sur le charbon de bois et va donner cette fonte qui, au miracle, est liquide, donc va donner un solide homogène. Et après une épuration, on va donc pouvoir faire ce que l'on faisait avec le bronze, c'est-à-dire mouler.
Ce minerai de fer, on le trouve partout dans le département du Cher, non ?
Oui, peu à peu, la diffusion est rapide, rapide. Alors, on a toutes les vallées de l'Arnon, du Cher, de l'Aubois sont concernées, évidemment. Et nous avons donc des gisements qui sont exploités. On dénombre jusqu'à une quinzaine de gisements rien que dans le département du Cher et 21 établissements métallurgiques.
D'accord. Et comment ce minerai de fer est exploité ?
Alors, ce minerai de fer est facile d'exploitation parce que il suffit de faire des tranchées, il est proche de la surface et il a une teneur de fer assez élevée, de l'ordre de 40%, quelquefois plus. Et les petits pisolites, c'est-à-dire des petits grains en forme de petits pois, sont l'élément évidemment utile, mais ils sont environnés de gangues qu'il faut débourber sur place, puis relaver éventuellement près du haut fourneau et ensuite traiter.
Si nous revenons à Torteron, est-ce que les forges de Torteron profitent-elles des commandes militaires au XVe siècle ? Dans le Jolan, il fait allusion à des bombardes. Alors je sais que vous connaissez bien cette question.
Au XIIe et jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la métallurgie a d'abord répondu aux besoins du chevalier qui s'armait pour partir en croisade. La construction de la cathédrale de Bourges en cours a peut-être aussi suscité la production de verges et de vergettes, c'est-à-dire de petites tiges étirées. Pour son palais ducal en construction à Bourges, Jean de Berry a commandé en 1382 quatre grappes de fer pour lier les pierres d'un escalier à vis à un forgeron que l'on retrouve en poste à jouer sur le bois. L'armurier ducal aurait aussi passé commande à Mouregard, près de la Guerche, pour du fer à marteler et corroyer en lames coupantes. Les épidémies, les troubles ont ensuite amoindri nos forges et les ravages des conflits en Bourguignon ont suspendu les débouchés. Pendant la guerre de Cent Ans qui s'achève, le fer du Berry et du Nivernais a été demandé pour forger des clous d'ardoise à placer sur les toitures des fortifications, 1403. Des éléments d'armure que l'on appelle harnachement de défense. Des canons primitifs par assemblage de tôles maintenus par des cercles comme un tonneau et peu efficaces. Les boulets sont encore en pierre. Pour fournir les dondaines ou carreaux d'arbalète, les forges sont sollicitées. Les usines qui fournissent les armées sont exemptées de certains impôts et les ouvriers échappent aux corvées, mais leur travail est soumis à une réglementation et il faut de plus héberger, entretenir 1 à 3 artilleurs avec leur armement en permanence.
Alors, pour le XVe siècle, au temps de Charles VII, alors ?
Eh bien, le petit roi de Bourges, avant d'être reconnu roi de France, soutient les mouleurs de cloches ou de bénitiers berrichons du Vert et de Daubois, mais surtout, il les incite à se soumettre au statut militaire et se muer en canonnier de Sa Majesté, utilisant le bronze ou la fonte coulée en moulage pour une nouvelle artillerie. C'est ainsi que l'on va fabriquer alors des boulets en fonte de fer moulé entre 2 pièces de moule que l'on tire et que l'on ouvre pour retirer un gros boulet de 8 livres, un petit de 4 livres ou un bâtard intermédiaire. Ainsi, bien employés, les bouches à feu vont armer les navires, marchands corsaires aussi bien que navires de guerre. Et c'est une commande lucrative de mise en œuvre rapide. Ces boulets sont tirés par des bouches à feu de forme ramassée, de nouveaux canons portés de campagne. Ils sont moulés. Il faut forer la pièce et pas encore rayer. Les fines couleuvrines sont généralement en bronze, mais on cite des serpentines en fonte de fer. Le veugler est composé de cylindres emboîtés et la bombarde se distingue par une forme ramassée pour de gros boulets. Les pots à poudre sont aussi nombreux à être demandés. Notre Périnet Gressard, pour 40 livres de fer, va faire une commande afin d'assurer la défense de Decize.
Toute cette production Torteron, comment est-elle exportée ?
Eh bien, elle est exportée par des bateaux que l'on fabrique sur place, oui, avec le bois justement dont on dispose, mais aussi, il va être exporté donc sur les petites rivières, difficilement parce que c'est lourd, très lourd. Il est plutôt acheminé jusqu'à la Loire, jusqu'au Point de Fer, par un chemin qui demanderait à être amélioré. On va l'embarquer jusqu'au port, alors jusqu'aux les grands ports, c'est la Charité, c'est Orléans, bien entendu.
Et il remonte la Loire.
Il remonte la Loire, et ainsi, on va atteindre les arsenaux autour de Nantes, Rochefort, Port-Louis, qui est près de Lorient. Ils vont faire des commandes.
Alors, merci beaucoup pour cette introduction sur cette métallurgie de Torteron avec des détails d'une très grande précision. Nous nous retrouverons dans une prochaine émission pour continuer à découvrir cette industrie. Et justement, nous aborderons la deuxième moitié du XVIIIe siècle avant, et bien sûr, de consacrer une troisième émission à l'apogée de Torteron à partir du XIXe siècle. Merci encore, chère madame. Merci aussi à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité. Je rappelle aussi à nos auditeurs et à nos auditrices que le Salon du Livre d'Histoire organisé par Agora Défense se déroulera le samedi 3 février après-midi et le dimanche 4 février 2018. Merci et bonne semaine.